IDFM Radio, le média valdoisien.
Bienvenue sur IDFM Radio, la radio d'Île-de-France en Val d'Oise et sa fréquence en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+ pour toute l'Île-de-France et sur notre appli dans le monde entier. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique et Nicolas à nos côtés, stagiaire. Bonjour Nicolas, bonjour Francky. Merci à vous toutes et tous d'être avec nous en direct jusqu'à 11h. Alors, innovation et durabilité, ou quand l'écologie innove pour transformer le monde. Bienvenue à toutes et tous, aujourd'hui mardi 3 juin 2025, pour ce nouveau numéro de l'économie en direct, dédié aux lauréats du salon Effervescence 2025 et 2024, comme nous le faisons régulièrement depuis plusieurs années, et découvrons ces entrepreneurs visionnaires dont les entreprises illustrent parfaitement, à travers leurs défis et leurs réussites, combien l'innovation peut servir la cause environnementale. Pour en parler, j'accueille d'abord Florent Bosseur. Bonjour Florent.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir chez IDFM Radio.
Merci.
Florent, vous êtes chargé de mission au CEVO, le comité d'expansion économique du Val d'Oise, depuis 2017. En charge avec Emmanuel... Vous êtes peut-être pas depuis 2017.
Alors non, je suis au CEVO depuis 2010, donc ça a quand même
2010,
un petit peu plus longtemps.
2010, c'est encore plus vieux, oui.
En fait, je travaille sur l'organisation des trophées Effervescence depuis 2017,
qui est la
première édition des trophées Effervescence, sachant que le salon Effervescence date de 2014, si je ne me trompe pas, puisqu'on avait fêté les 10 ans d'Effervescence en 2024.
Et c'est ça. Bah, merci beaucoup, Florent, pour ces précisions. Donc, en charge avec Emmanuel Destieux, hein, chaque année, d'organiser les trophées Effervescence qui viennent récompenser les candidats à cette sélection. Vous nous expliquerez cette mission qui permet à chaque fois de réunir tous ces dirigeantes et dirigeants d'entreprises venus défendre leur activité devant un jury très rigoureux de ce salon Effervescence et qui a eu lieu cette année le 25 mars 2025 à Villiers-le-Bel. Parmi les heureux lauréates et lauréats, j'accueille pour le trophée Impact 95 Laurie Demir, fondatrice de Laurig. Bonjour Laurie.
Bonjour.
Heureuse de votre venue également à l'antenne. Alors, artiste designer, inventrice du matériau Kamikami, mais de quel matériau s'agit-il? Vous nous en dites plus dans quelques instants.
Avec plaisir.
À vos côtés, Saïd Kilik. Bonjour Saïd.
Bonjour Jacqueline.
fondateur et dirigeant de KLC. Enchanté de vous accueillir à nouveau à l'économie en direct, Saïd. Un hasard du calendrier qui veut que vous reveniez assez rapidement chez IDFM Radio, cette fois en tant que lauréat du trophée du Made in 95, et vous nous expliquerez ce qui a séduit le jury qui a voté pour vous.
Avec plaisir.
Et à vos côtés, Aurélie Tourette. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Également bienvenue chez IDFM Radio. Merci. Fondatrice d'Eco Actitude, lauréate 2024 du trophée Impact 95 Coup de cœur. Vous nous rappellerez votre parcours et tous les nouveaux projets que vous avez mis en route depuis votre dernière venue à notre antenne.
Avec plaisir.
Et alors, pour ne oublier personne, je dois dire que nous aurions dû avoir Vanessa Schweitzer, lauréate du prix Michel Lefebvre, mais Vanessa n'était pas disponible ce matin, d'où son absence à nos côtés. Eh bien, bienvenue à tous, félicitations bien sûr pour ces trophées, merci pour votre présence en direct sur le plateau de l'économie en direct.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Florent Bosseur, alors vous nous avez déjà dit depuis quand vous étiez chez Ocevo, mais quelques mots pour vous présenter, Florent.
Oui, alors moi je suis donc Florent Bosseur, je suis chargé de mission Ocevo. Je suis plus spécifiquement basé sur l'Est du Val d'Oise, mais je suis amené à travailler sur l'ensemble du Val d'Oise. Donc comme je disais, je suis chargé de mission, en charge plus particulièrement du suivi des filières d'activité, mais aussi de l'animation du territoire, et c'est à ce titre que je participe, comme beaucoup d'autres associations, à l'organisation du Salon Effervescence. Je travaille sur pas mal d'autres sujets, je travaille aussi bien sur la sécurité que sur l'hydrogène, qu'on a pas mal de sujets en Val d'Oise.
Je suis assez polyvalent. Vous avez un parcours académique assez pointu.
C'est ça. J'ai un DUT, comme je disais, j'ai un DUT en gestion, un master en économie territoriale, et c'est tout naturellement du coup que je me suis orienté sur une agence de développement et d'attractivité départementale. Dans laquelle j'évolue depuis 15 ans, donc comme quoi, et comme je disais, depuis 15 ans, j'ai jamais fait encore le tour de toutes les missions qui nous sont allouées, donc je découvre toujours des choses.
Donc vous n'êtes pas encore blasé ni saturé.
C'est ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est qu'on apprend énormément de choses et qu'on rencontre beaucoup de personnes très intéressantes, notamment dans le cadre des trophées. Voilà.
C'est vrai.
Trois représentants vraiment super, super intéressants autour de nous aujourd'hui. Des missions très polyvalentes au CEVO.
Très bien. Alors le salon Effervescence, le CEVO, donc on l'a compris, un partenaire incontournable de ce salon Effervescence, qui est un projet au départ assez visionnaire à l'époque de sa création, puisque il y a 12 ans maintenant, quand Philippe Écran, son fondateur, a voulu le créer, c'était pour fédérer des fournisseurs qui, pour éviter qu'ils aillent chercher à l'autre bout du territoire un fournisseur dont ils auraient pu avoir besoin.
C'est ça, c'est complètement le principe du salon Effervescence, c'est de rencontrer nos voisins, savoir un petit peu qui est autour de nous. C'est d'ailleurs le concept du salon Effervescence, pour ceux qui connaissent, on ne s'assied jamais.
Oui.
Pour cause, il n'y a pas de chaise. Voilà, il n'y a que des manches debout. Donc ça c'est pour donner envie à ceux qui connaissent pas de venir. Voilà, mais mettez des bonnes chaussures quand même. L'idée c'est de pouvoir échanger sur une journée avec énormément de monde, donc surtout des entreprises valdoisiennes de tous horizons. Voilà. Et de connaître, comme je disais, ses voisins pour pouvoir faire des affaires. C'est vraiment un salon qui est très très orienté, business.
Complètement.
Et réseau.
Mais vous avez raison de dire qu'on ne s'assied jamais, à part pour le déjeuner.
Oui.
Mais la journée passe tellement vite, c'est tellement... Alors, ce terme, je me répète, mais c'est tellement effervescent qu'on a et on a envie de voir tout le monde et on n'arrive pas à voir tout le monde.
Non.
Je sais que moi cette année, je n'ai pas réussi à voir tous les gens que j'avais envie de voir. Parce
c'est
que
ça.
Vraiment, c'est.
Bah, on a 200 exposants. Donc,
250.
250 exposants. Donc forcément, ça fait du monde à voir. Donc il faut faire un peu de tri. Mais voilà, l'idée, c'est aussi d'y aller un petit peu parfois au hasard et puis d'aller rencontrer les gens sur leur stand ou de les croiser dans les couloirs du salon. Voilà, juste savoir ce qu'ils font. Discuter comme ça.
Oui. Alors, les thématiques des trophées étaient le trophée Made in 95 avec la RSE. La RSE avec le trophée Impact 95, le trophée de la création d'entreprise Michel Lefebvre. Je sais que vous avez tenu à citer, Florent, certains des partenaires. Donc, Initiative 95, 78, le réseau Entreprendre 95, Roissy Dev, la Chambre des métiers, la Fédération française du bâtiment.
C'est ça.
Tous les acteurs vraiment
alors, ces
majeurs.
Ces organismes-là, ce sont les organismes qui sont engagés avec nous sur le groupe de travail Trophée Effervescence.
D'accord.
Puisque dans le cadre de l'organisation du salon Effervescence, il y a plus d'une trentaine d'organisations qui travaillent justement à ce salon. Voilà, donc il est coordonné, comme vous l'aviez dit, donc aussi bien par la CCI, la TPAVAB, mais dans lequel on va retrouver plein d'autres structures, des structures des associations locales, la IGPF, le club ACE, voilà, énormément de monde qui travaille autour de ce sujet.
Vous vouliez parler des dossiers de candidature, hein, Florent,
oui.
Parce que ces dernières années, l'organisation a ouvert les candidatures aux membres des partenaires organisateurs, mais aussi à des entreprises notables non exposantes. Et c'est important de le dire,
c'est ça.
Pour l'année prochaine, si certains veulent candidater.
C'est ça. Alors, l'idée en 2017, quand on a créé les trophées, c'était de récompenser les exposants qui avaient un projet intéressant, enfin, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait comme des gens qui avaient des beaux projets et on s'est dit que ça serait bien de pouvoir les valoriser dans le cadre de cette manifestation. L'idée derrière, c'est d'avoir des projets toujours plus beaux aussi à montrer et surtout de valoriser le Val-d'Oise. C'est aussi ça qu'on aimerait pouvoir faire avec les trophées, qu'on essaie de faire avec les trophées. Petit à petit, on s'est dit, voilà, pour que la compétition soit aussi valorisée, il faut qu'on ait des compétiteurs. Voilà, donc on s'est dit que si on s'arrêtait seulement aux exposants du salon, on allait vite être limité. Donc on a commencé à ouvrir d'abord aux membres des organisateurs, donc des associations que j'évoquais tout à l'heure, qui peuvent proposer une candidature de leurs membres. Et petit à petit, on commence aussi à ouvrir à d'autres entreprises extérieures au salon. C'est comme ça que notamment l'ORIG a candidaté, puisqu'elle avait été lauréate de Cré Argenteuil. Dans ce cadre-là, on avait un accord avec eux qui disait que les lauréats pourraient candidater au salon Effervescence. Et petit à petit, voilà, on ouvre aussi les candidatures à d'autres structures. Voilà. Donc on aime bien avoir les PME du Val-d'Oise qui candidatent dès lors qu'elles ont un projet intéressant à montrer.
Alors moi, je voudrais savoir à partir de quel moment vous procédez à la sélection des candidats désireux de postuler.
Alors, on a une sélection en deux étapes. La première étape, donc, c'est celle de récolter les dossiers de candidature. On va avoir une étape de présélection, on va dire 15 jours avant le salon, où le groupe de travail Trophée va se réunir.
Ça se fait vraiment au dernier moment.
Oui. En fait, on essaie de laisser le plus de temps possible aux entreprises pour leur laisser le temps de candidater.
Oui.
Parce qu'on sait que ça prend toujours du temps de remplir des dossiers. Voilà, on essaie toujours de le faire entre deux, le soir, le week-end, etc. On sait que les chefs d'entreprise sont très pris. Voilà, l'idée, c'est de leur laisser le plus de temps possible pour répondre. Cette année, on a essayé aussi de raccourcir le dossier de candidature qui a été très chargé il y a 2 ans. Donc on a essayé de faire en sorte d'avoir un dossier plus léger. Donc comme je disais, donc on a ce comité de présélection où on est obligé de sélectionner sur dossier les candidatures pour justement permettre l'audition d'un certain nombre de candidats le jour même du salon.
Oui,
voilà, donc l'audition se fait le jour même du salon par trois jurys. qui sont composés donc des têtes de réseau du Val d'Oise. Donc c'est surtout les présidents et les représentants des organisateurs du salon. Donc on va retrouver le président de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, les présidents des réseaux d'entreprises, des élus aussi, puisqu'on a les élus notamment des collectivités qui nous accueillent. Donc cette année on avait Villiers-le-Bel qui était avec nous. Voilà, donc on essaie de travailler là-dessus pour la sélection. Et on est obligé de faire une présélection aussi pour la simple et bonne raison que comme on le fait le matin même du salon, on est obligé de se limiter à un certain nombre de candidatures à auditionner. Parce que sinon, on n'arriverait pas, on passerait la journée. Et comme on se donne l'ambition de remettre le trophée autour de 14h généralement le jour du salon, voilà, on est obligé de sélectionner entre 5 et 6. Voilà.
Quand vous dites que le dossier a été allégé de candidatures, c'est parce que il y avait beaucoup plus de critères pour répondre à cette candidature.
Alors initialement, le dossier était extrêmement léger en 2017 et jusqu'en 2021-22, où on avait uniquement un petit formulaire sur le site internet à répondre avec le nom, le prénom et 5-6 lignes de description du projet. Ce qui était très compliqué de faire la présélection sur dossier avec aussi peu d'informations. Donc on a décidé il y a quelques années de faire un dossier plus complet, où on s'est inspiré d'autres dossiers de candidature, mais où on s'est rendu compte qu'on demandait finalement des informations qui ne nous étaient pas si utiles que ça. Et on a eu un retour d'entreprise qui nous avait indiqué que, en effet, le dossier était peut-être un peu chargé. Donc on a décidé cette année, au contraire, de le réduire et d'y intégrer aussi des questions juste à cocher. Voilà, comme
c'est ça, oui. En fait, oui, vous avez tenu compte justement des remarques qui ont été faites et avant et après.
Et on continuera de tenir compte de ces remarques puisqu'on a eu quelques autres remarques. Donc l'année prochaine, on essaiera de les améliorer encore, si on peut.
Alors, je m'adresse à vous trois, Saïd, Aurélie et Laurie. Vous avez candidaté, vous saviez que vous alliez candidater. Comment ça s'est organisé, Laurie?
Moi, très peu de temps avant le salon, finalement, parce que c'est suite au concours Créer Argenteuil, voilà, que j'étais au courant de ce concours-là.
Parlez bien en face du micro, hein, Laurie.
Tout à fait, on va essayer de faire de notre mieux. Mais donc, non, je n'avais pas du tout prévu de candidater au trophée. En fait, je ne connaissais pas encore ce trophée-là. Maintenant, je suis ravie de faire partie.
Vous ne connaissiez même pas, peut-être, Effervescence?
Pas du tout.
Non, c'est ça. Et vous avez été informée comment, alors?
Par Créer Argenteuil, voilà.
D'accord, bon.
En recevant les prix. Donc ça s'est vraiment fait.
Vous avez très bien fait de candidater en tout cas. Aurélie ?
Moi, c'est la deuxième fois du coup que je candidate, puisque l'année dernière, donc, j'avais participé au Trophée Impact et donc, j'avais eu le coup de cœur du jury et ça m'avait apporté vraiment beaucoup de visibilité. Ouais. Et du coup, forcément, quand l'occasion s'est représentée, j'ai eu envie encore de me challenger sur un autre trophée, du coup, puisque cette fois, j'avais tenté le trophée Michel Lefebvre, là où Vanessa a gagné. C'est totalement mérité pour son joli parc. C'est vraiment sympa de pouvoir se challenger devant un grand nombre de personnes, surtout qui nous écoutent et qui nous font des retours après, enfin, qui nous posent des questions.
C'est ça.
Qui sont très pertinentes.
Ça vous fait avancer.
Ça me fait avancer.
Même si vous n'êtes pas lauréate, finalement.
Non, même si je ne suis pas lauréate, mais bon, après, peut-être que l'année prochaine, on me reverra. Mais je me dis, à un moment, il faut laisser sa place aussi. Donc, on verra.
À partir du moment où c'est une compétition, tout le monde peut se présenter. Hein.
C'est ça.
Et vous, Saïd ?
Nous, Jacqueline, du coup, bon, Salon Effervescence, c'est un peu le salon du Val d'Oise. Hein. Donc, en tant qu'acteur de ce territoire, on connaît bien ce salon. Moi, je tenais aussi à saluer le travail de la CEVO, au niveau de l'accompagnement, de la transparence, même au niveau de la réponse au trophée. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était assez clair, enfin, l'accompagnement et tout ça. Du coup, ce qui a quand même pas mal facilité.
Oui, c'est très professionnel, en fait.
C'était très pro, très simple, très, très transparent. C'est un peu, en général, dans ce genre de concours, les démarches administratives sont un peu plus lourdes.
Compliquées.
Vous les avez allégées. Et même en termes de communication aussi, en face de nous, on n'a pas forcément des interlocuteurs dédiés ou qui nous accompagnent sur tout le process. Et là, la CEVO a vraiment été voilà, un accompagnateur à la hauteur de ce salon. Donc, je tenais à
Mais donc, vous, vous aviez dans l'idée de vous présenter comment
pour,
ça s'est passé
Pour rien cacher, Jacqueline, en fait, moi, j'ai une responsable développement en interne.
Oui.
Donc, qui avait. Parce que nous, bon, on a déjà eu la chance de remporter des trophées, mais plus à l'échelle nationale.
D'accord.
Donc, dans le secteur de l'environnement.
Vous êtes blasé.
Voilà, non, non. j'y reviendrai hein, sur l'importance de ce trophée. Mais du coup là-dessus voilà on a été donc voilà c'est ma directrice de développement qui avait relevé ça et donc par la suite on a répondu.
Bah, bravo à votre directrice de développement hein, de vous avoir incité à postuler. Florent, ça représente combien de dossiers global pour le
Alors,
pour cette sélection.
Cette année, on a dû recevoir une grosse trentaine de dossiers, je pense. Oui, c'est ça, une grosse trentaine de dossiers. Et comme je disais, sur la présélection, on est obligé d'en sélectionner 5 à 6 maximum par jury. Voilà, donc une quinzaine ne sont sélectionnés. Donc bah, ça fait déjà une grosse sélection dès la présélection. Voilà, donc... Mais voilà, donc ça représente quand même pas mal. Et puis on est sur une phase de croissance, c'est-à-dire que ces dernières années, il y a deux ans, c'était pareil, une trentaine de dossiers, mais on reste sur une phase de croissance, mais qui est notamment liée à cette ouverture que j'évoquais tout à l'heure aussi.
Alors moi, j'ai une question un petit peu plus personnelle, parce que vous qui êtes en amont de la sélection, est-ce qu'il vous arrive, à vous et Emmanuel, d'avoir un vrai coup de cœur pour un ou une candidate? Et à l'inverse, est-ce qu'il vous est arrivé d'être surpris par le choix du jury en désignant certains candidats?
Alors, oui, sur les deux questions. Cependant, moi, comme je suis en lien avec les candidats, j'essaie de faire en sorte de ne pas m'investir trop dans le comité de présélection. C'est-à-dire que je suis plus sur l'appui technique.
Ouais.
Je vais éviter de donner mon avis parce que je suis en lien avec les candidats. Et je trouve que je pourrais éventuellement avoir une vision biaisée et biaiser la présélection. Donc, comme c'est moi qui reçois les dossiers, comme c'est moi qui suis en contact avec les candidats, que je leur donne des conseils aussi pour remplir les dossiers, j'essaie d'éviter de trop m'impliquer là-dedans.
Vous restez très objectifs.
C'est ça. Et mais derrière, oui, en effet, on reçoit des dossiers qui sont incroyables et bon. On ne peut pas tous les citer, mais on a en effet des petits coups de cœur. Bah, la preuve en est, c'est que, alors ce n'était pas au niveau de la présélection, mais c'était au niveau de la sélection finale. Il y a deux ans, on a eu des coups de cœur qui ne sont absolument pas prévus par le règlement.
Ah oui.
Techniquement, ils ont été prévus juste en dernière minute. Voilà, parce qu'on s'est dit, bah non, on ne peut pas laisser passer comme ça. Voilà. Donc on a ajouté ces coups de cœur vraiment au dernier moment. Et puis après, oui, on a parfois des surprises, mais peut-être parce qu'on a aussi uniquement, enfin moi par exemple, je n'ai uniquement que les dossiers sous les yeux, et on a des entreprises qui se défendent extrêmement bien au niveau du pitch, voilà, donc qui peuvent renverser complètement un jury. J'ai déjà vu un jury se faire renverser avec un favori. Moi, on pensait tous qu'il y avait un favori, et c'est pas lui qui l'a eu le trophée. Je dirais pas qui.
Non, non, on va pas dévoiler les dessous de la compétition. Florent, je propose qu'on marque une pause et puis on va parler de la prochaine édition. On va en dire quelques mots. À tout de suite.
Un jour, une dame a dit d'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte qu'elle sommeille en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia. Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes, mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après les froids, vint le soleil. Et la voilà de ses merveilles. La dame dit, voulez fort garder la paix comme un trésor. On raconte qu'elle est belle mais fragile comme nous, qui abandonne et déjà mort, mais qui espère, respire encore, et le monde attend le temps de l'alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Nous venons d'écouter Alléluia par Vianney, Gustavo Dudamel et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Je suis en compagnie de Florent Bosseur, Saïd Kilik, Aurélie Tourette et Laurie Demir pour parler des trophées du dernier salon Effervescence. Florent, on sait presque tout sur l'organisation de, enfin en tout cas la sélection des candidats. Maintenant, il faut penser au prochain salon
tout
déjà.
Tout à fait, on réfléchit justement à la prochaine édition. Alors, j'aurai pas de scoop à vous donner parce que je vais pas vous donner la date ni le lieu du prochain salon puisque je ne les
vous
ai
le
pas.
Connaissez... Ah non, vous les connaissez
non, je
pas.
Ne les connais pas.
Oui.
Je pense que ça serait annoncé dans pas trop longtemps, mais voilà, je peux pas trop m'avancer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on va renouveler ce concours des trophées Effervescence. Puisque notre objectif, c'est de lui donner vraiment une dimension de plus en plus importante. De toujours un petit peu plus le professionnaliser, donc de prendre en compte, comme je disais, tous les retours qu'on a autour de ce concours et de le valoriser au mieux auprès de nos partenaires, auprès de toutes nos relations presse aussi, pour que les candidats et les lauréats aient une meilleure visibilité possible.
Voilà. Très bien. Bah, écoutez, on va être à l'affût de cette nouvelle édition, savoir où ça va se passer cette année. Merci infiniment, Florence, pour ce témoignage du processus très important de sélection des candidats au trophée du Salon Effervescence. Merci. Merci à vous. On fait une mini-pause, Francky.
IDFM Radio, 98 FM.
Vous êtes bien sur IDFM Radio. Merci d'être avec nous pour cette spéciale trophée du Salon Effervescence. Donc, en compagnie de mes quatre invités, Florent Bosseur, chargé de mission au CEVO, Comité d'expansion économique du Val d'Oise, pour le trophée Impact 95, Laurie Demir, artiste designer, inventrice du matériau Kamikami, fondatrice de l'Aurig. Pour le trophée du Made in 95, Saïd Kilik, fondateur et dirigeant de KLC, et Aurélie Tourette, fondatrice d'Eco Actitude, lauréate 2024 du trophée également Impact 95 coup de cœur. Alors Laurie Demire, merci d'être présente dans nos studios et puis je vous laisse vous présenter.
Merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être présente. Donc je suis effectivement, comme vous avez bien
introduit,
un tout
petit
je
peu,
suis, voilà.
Oui, super.
Je suis artiste et designer et j'ai effectivement inventé un matériau qui s'appelle le kamikami et c'est grâce à cette matière que donc j'ai pu remporter le trophée Impact 95 cette année. Pour dire au plus vite, c'est un matériau qui a été développé dans l'idée de revaloriser les fibres qui ne le sont pas en temps normal, donc voilà, soit les cheveux, soit les poils d'animaux, mais ça s'ouvre à tout plein de matières en fait naturelles. Par exemple, voilà, ces fibres sont en temps normal jetées, soit incinérées, soit enfouies, ce qui pose de nombreux problèmes environnementaux ou sanitaires. Il y a plus de 10 000 tonnes de ces matières fibreuses qui sont jetées chaque année. Et donc l'idée, c'était de revaloriser cette matière à plus grande échelle, donc en montant aussi des partenariats avec des salons de coiffure et des toiletteurs, pour voilà, en faire des matériaux qui puissent après être appliqués dans de nombreux secteurs.
Très bien. Alors, racontez-nous un petit peu, moi je l'ai entendu, votre histoire à la remise du trophée, mais racontez-nous un petit peu l'origine de cette innovation.
Le projet, il est né en mars 2020. Donc, mars 2020, c'est tout premier confinement. Je n'avais plus de papier chez moi pour écrire mon attestation de sortie. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis atteinte d'alopécie, donc je perds mes cheveux. Et c'est comme ça que je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas redonner de la valeur à cette matière que je perds au quotidien en fabriquant du papier avec mes cheveux, voilà. Et à force d'expérimentation, beaucoup de travail, j'ai réussi à développer donc un matériau qui a pour... première application en tout cas, le papier. Et donc j'ai pu écrire dessus, l'imprimer mon attestation, voilà, faire plein d'autres choses avec. Et finalement, c'est un projet après que j'ai énormément développé au vu des problématiques environnementales qu'il y a aussi autour de ce genre de fibres qui ne sont pas revalorisées. Et donc j'ai monté de nombreux partenariats et j'ai développé aussi bien plus le projet. Donc finalement, ça n'est plus un matériau que j'applique simplement dans ma propre pratique artistique, mais c'est un projet aussi un matériau que je propose aussi à d'autres structures qui est répertorié aussi maintenant à Paris chez Matériaux. Donc c'est une grande matériothèque pour de nombreux créateurs et aussi chez L'Oréal. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir proposer cette matière qui a de nombreuses applications qu'on peut utiliser soit comme un papier mais également comme un textile, comme du revêtement, également pour du PLV, du packaging. Enfin les applications sont très nombreuses que moi j'ai structuré aussi dans ma propre activité. Donc ça me permet aussi de pouvoir montrer les différentes possibilité d'utilisation à travers ma propre démarche, donc en réalisant soit du mobilier, des luminaires aussi, parce que c'est une matière qui est aussi intéressante à la lumière. En fait, ça permet de dévoiler vraiment toutes les fibres, mais sauf que lorsque ça n'est pas illuminé, il y a aussi une autre esthétique aussi qui s'en dégage. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ces deux approches. Et aussi de nombreuses réalisations d'œuvres. Et donc l'idée, c'est de pouvoir après... Après aussi, développer encore plus loin, j'ai réalisé aussi du revêtement mural, mais également des isolants phoniques et thermiques, qui sont aussi un autre axe du projet, qui sont aussi en cours de développement.
De développement. Voilà. Mais alors, donc, vous avez l'idée de créer ce projet papier, hein, au départ, à base de cheveux. Et puis, c'était pour un emploi purement personnel. Mais à partir de là, vous vous êtes dit, mais on peut aller beaucoup plus loin et vous avez avancé dans le projet.
Donc, au tout début, effectivement, c'était une application personnelle. Mais très rapidement, je l'avais intégrée, en fait, dans mon projet de diplôme de licence.
Ah oui,
à ce moment-là,
vous aviez travaillé dessus.
Je l'ai intégré en fait dans mon projet de diplôme. Enfin, j'avais plusieurs projets. J'étais au Beaux-Arts d'Angers et j'avais plusieurs projets que je présentais. J'avais un projet personnel que je pouvais présenter. En plus, j'en ai présenté deux. Voilà, donc j'en avais préparé un dont j'étais très fière et finalement celui-ci, j'ai présenté simplement le matériau, la matière dont elle était issue, donc mes propres cheveux et la manière dont j'en ai parlé et tout ça. J'ai senti qu'il y avait plus d'impact en fait face à ce projet-là et ça m'a poussée à le développer encore plus loin. Je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a quelque chose en fait à dégager de ce projet-là. parce qu'en fait en plus même l'esthétique n'était pas encore là, enfin c'était pas l'esthétique actuelle. Et donc finalement j'en ai fait mon projet de master. Donc j'ai énormément après réfléchi sur son développement, j'ai poussé encore plus tout ça, et même voilà la réflexion aussi à tous les niveaux sur ce genre de fibres, les impacts écologiques, et c'est comme ça que j'ai pu voilà le développer encore bien plus. Et après, une fois diplômée, j'en ai fait vraiment mon projet professionnel. J'ai cherché après à l'amener encore plus loin. Et à partir du moment où ça a été répertorié dans des matériothèques, c'est là où j'ai senti que j'ai pu faire aussi des salons comme maison objet. J'ai senti qu'il y avait vraiment un intérêt aussi pour cette matière. Et donc, il fallait que finalement, que ça ne soit plus juste une application personnelle, mais que ça s'ouvre aussi à d'autres professions. Et c'est comme ça que ça m'a aussi amené à pouvoir rencontrer des architectes qui se projetaient aussi avec cette matière. Et finalement plein d'autres personnes, donc c'est là que je me suis dit, je ne vais pas simplement l'utiliser pour moi, mais je vais l'ouvrir, et ça permet de revaloriser encore plus de matière, puisque là je suis à 2 tonnes de fibres kératiniques revalorisées en 2 ans, et ça continue encore à se poursuivre,
à se développer.
C'est ça.
Ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes en relation avec des industriels donc qui transforment cette matière.
Non, pour l'instant je suis vraiment à mon échelle.
C'est vous.
C'est moi qui produis énormément. Je suis passionnée par ce que je fais, donc je m'arrête pas, et il y a toujours des choses à découvrir. Il y a toujours de nouvelles fibres. J'ai réalisé une résidence. En fin d'année dernière, une résidence d'artiste en Indre-et-Loire, et ça m'a permis aussi de travailler avec d'autres types de fibres comme du poil de cheval. Donc le crin, je l'avais déjà utilisé, mais le poil est super intéressant aussi. Et là, c'est d'ailleurs la saison. Donc c'est pareil, c'est pas des fibres qui sont. Je ne vais pas tondre un cheval par simple envie.
C'est une récupération.
Une récupération
en fait.
De cette matière pour la revaloriser et éviter qu'elle finisse enfuie, etc. Et donc, et ça permet d'avoir aussi d'autres rendus, autant esthétiques que fonctionnels, super intéressants, et ça permet d'avoir des supports autant souples que durs, et qui donc puissent s'appliquer à plein d'autres choses.
Oui. Voilà. Est-ce que votre innovation fait l'objet d'un brevet déposé ?
Ça a été protégé par plein de billets, mais le brevet, on me l'a déconseillé. Donc, et effectivement, on m'a donné l'exemple de Coca-Cola.
Vous avez un secret de fabrication ?
Tout à fait. Oui. Ça reste secret. On m'a conseillé de faire comme Coca-Cola, de ne rien divulguer. On m'a dit c'est le meilleur des brevets. C'est bien plus sûr. Et ça permet d'après de.
Donc on vous souhaite le succès de Idem à Coca-Cola.
Merci. Mais c'est quand même bien, bien protégé par d'autres billets.
Très bien, très bien. On marque une pause et puis on va vous demander comment le public réagit face à vos œuvres. À tout de suite.
T'es ma dernière cigarette. Tu consumes mes pensées tous les soirs. J'ai nos disputes dans la tête. Toujours l'impression de te décevoir. Sommeil cassé, des nuits qui s'arrêtent. Je revois nos premières images dans les bars. Je crois qu'on pourrait enfin s'admettre que c'était pas vraiment la bonne histoire. Autant on se dire qu'on ne se fera plus rire. Qu'on a connu le pire. Qu'il est dur, le temps perdu. Il est dur ce temps qu'on perd. Deux âmes qui ne se voient plus. Faut trouver autre chose à faire. Le temps perdu. Il est dur ce temps qu'on perd. Deux âmes qui se regardent plus. Faut trouver autre chose à perdre. Viens on arrête tout ce cinéma. J'ai pas le temps de rentrer dans les cases. Notre route que des aléas. Des montagnes qui jamais ne se croisent. Viens on arrête notre cinéma. Et on regarde l'avion qui s'écrase. Une cigarette mais sans la flamme. Annonce un couple qui déraille. Autant on se tire qu'on ne se fera plus rire. Qu'on a connu le pire. Qu'il est dur, le temps perdu. Qu'il est dur ce temps qu'on perd. Deux âmes qui ne se voient plus. Faut trouver autre chose à faire. Le temps perdu. C'est le temps qu'on perd. Deux âmes qui se regardent plus. Faut trouver autre chose à perdre. Le temps perdu.
Il est dur ce temps qu'on perd. Deux âmes qui ne se voient plus vont trouver autre chose à faire. Le temps perdu, le temps perdu. Deux âmes qui se regardent plus vont trouver autre chose à perdre. Qu'il est dur, le temps perdu. Il est dur ce temps qu'on perd. Deux âmes qui ne se voient plus vont trouver autre chose à faire. Le temps perdu, il est dur ce temps qu'on perd. Deux âmes qui se regardent plus vont trouver autre chose à perdre. Le temps qu'on perd. Le temps perdu.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
C'est l'économie en direct et nous faisons un retour sur les trophées du Salon Effervescence qui a eu lieu le 25 mars cette année à Villiers-le-Bel. Et je suis en compagnie de Laurie Demire, artiste, designer, inventrice du matériau Kamikami, fondatrice de Laurig. Alors Laurie, on a compris que vous étiez une véritable innovatrice. Hein. Bravo pour ça. Quel est le retour du public face à vos œuvres et puis et votre impact de votre travail sur la sensibilisation écologique, pardon, j'ai du mal à le dire.
Il y a des super retours sur cette matière. En fait, voilà, je sens qu'il y a de plus en plus de personnes ce projet permet de sensibiliser de nombreuses personnes, en fait, déjà de base, de se réaliser, en fait, de cette problématique et qu'en fait, on peut revaloriser finalement tout ce qu'on produit, que ce soit autant naturellement que même n'importe quel finalement déchet peut être revalorisé et en faire de superbes choses et j'ai de plus en plus de demandes justement pour utiliser cette matière dans différents types de projets. Je suis aussi sur un projet d'étiquette de bouteilles de vin à partir de cette matière. Donc ça se développe énormément et je sens qu'il y a un vrai engouement surtout ces derniers temps grâce aux différents prix que j'ai reçus. Et je suis très reconnaissante pour tout ça.
Une vraie visibilité.
Voilà, ouais. Surtout sur le secteur, je suis ravie parce que voilà, je connaissais pas bien en fait les entrepreneurs sur ce secteur-là, alors que je suis sur ce secteur, voilà, parce que moi j'étais plutôt au départ j'ai étudié à Angers et en plus ça fait 3 ans que je suis de retour sur ce territoire et j'étais plutôt dans le domaine de l'art et du design, donc je connaissais pas encore le domaine entrepreneurial dans notre territoire et je suis ravie d'en faire partie.
Vous avez intégré la partie vraiment économique du territoire. Même peut-être souvent on reproche à ces produits transformés leur prix parce que ça demande quand même un vrai savoir-faire. Qu'en est-il de vos objets ?
Effectivement, est-ce qu'il reste une question. Tout est produit à l'heure actuelle artisanalement, à ma propre échelle. Donc j'ai pu revaloriser, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais plus de 2 tonnes de matières premières depuis 2 ans. Et donc ça permet de pouvoir avoir un vrai impact sur le territoire. Et donc finalement, effectivement, ça a un coût. Mais l'idée, c'est de pouvoir produire après à plus grande échelle et donc de le développer aussi de manière industrielle sur les territoires et donc de réduire également les coûts de production et de vente.
Très bien. Aujourd'hui, professionnellement, quels sont vos besoins ? Avoir plus de visibilité ?
Tout à fait. En tant qu'artiste, j'ai cette chance-là de pouvoir exposer. Donc ça me donne une certaine visibilité en quelque sorte. Et j'expose de plus en plus sur ce territoire. Donc ça me permet de pouvoir aussi montrer ce projet-là à de nombreux autres entrepreneurs également, d'autres structures. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'idée, c'est effectivement d'avoir de plus en plus de visibilité aussi auprès d'entreprises du territoire, de types de professionnels, des architectes. Donc je ne sais pas si on nous écoute. Écoute ici, s'il y a des architectes qui écoutent IDFM Radio, mais je serais ravie d'échanger avec vous.
L'appel est lancé.
Et donc voilà, en tout cas, à travers ces expositions, c'est ça qui est super intéressant, c'est que ça me permet d'avoir une première approche du public, d'avoir un vrai retour pour après pouvoir développer au mieux aussi le projet. C'est pas, voilà, finalement, je suis plus seulement artiste qui réalise des créations qui ont pour vocation juste d'être exposées. C'est après d'autres types de besoins maintenant, parce que c'est voilà, une matière où il y a eu un vrai retour aussi d'intérêt
un vrai engouement
face à ce projet-là. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir, suite à ces expositions, suite au retour aussi que lorsque je fais des salons, de savoir après comment développer le projet, vers quelle direction aussi partir, pour aussi pouvoir s'intégrer dans de différents secteurs.
Vous êtes en pleine ébullition.
Tout à fait.
Je me disais que Saïd connaît sûrement des architectes.
On va peut-être faire le lien. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir.
Laurie, vous avez une actualité à nous annoncer. Vous préparez une exposition.
Tout à fait. Oui, donc il y a une exposition là, qui va se dérouler très bientôt. C'est ce samedi de 9h à 19h au Centre Horticole d'Argenteuil pendant un festival écologique et culturel. Voilà, donc c'est la première édition, il me semble. Et donc, je suis ravie d'avoir été sélectionnée pour pouvoir y exposer mon travail. Donc, c'est aussi l'occasion de pouvoir montrer des nouvelles approches de ce matériau. Donc là, vraiment, ça va être inédit ce que je vais pouvoir y exposer. Et ça peut, voilà, peut-être donner des idées pour des aménagements intérieurs également. Et donc, je suis ravie de pouvoir montrer ces créations à cette occasion. Donc, c'est un superbe événement auquel voilà, il va y avoir aussi de nombreuses autres choses qui vont se passer. Et donc, voilà, je suis ravie de pouvoir en faire partie.
Vous nous rappelez donc à Argenteuil.
À Argenteuil, ça sera au Centre Horticole. Donc c'est une première. Voilà,
de quelle heure à quelle heure?
Puis ouvrir ce lieu aussi au public, ça sera de 9h à 19h.
Très bien. Ça se retrouvera sur le podcast de l'émission.
Parfait, je suis ravie de vous y retrouver.
Merci infiniment, Laurie, pour votre participation et cet échange très inspirant. Ben, on vous souhaite le meilleur dans le développement de votre art et puis de cette innovation. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Ne partez pas, on marque une nouvelle pause et on donne ensuite la parole à Saïd Kilik, également lauréat d'un trophée au Salon Effervescence.
On ne rentre pas dans les cases. On n'est pas fait pour vivre en cage. On n'est pas pareil, on est fou. On est plusieurs, on est flou. Si c'est pour convenir un peu, si c'est pour devenir peureux, nous mettre à marcher dans les clous, en cachette, à genoux. Il y a des jours où j'ai des bleus. Il y a des jours où l'ombre est rouge. Il y a des mains sur nos yeux. Quand on veut plaire à tout ce qui bouge, il y a de quoi s'enrager. Et tant dire qu'on doit se taire. Il y a de quoi déroger. Désobéir à la frontière. Mon amour, entièrement nous. n'as jamais été mon amour, entièrement nous. On laisse aller.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
C'est l'économie en direct et ce matin nous mettons à l'honneur les lauréats des trophées du Salon Effervescence qui a eu lieu cette année le 25 mars à Villiers-le-Bel. Merci d'être resté en compagnie avec nous. À mes côtés, Florent Mosseur, chargé de mission au CEVO, Comité d'expansion économique du Val d'Oise, en charge de la sélection des postulants au trophée. Saïd Kilik, pour les auditrices et auditeurs qui n'étaient pas à l'antenne le mois dernier, donc Saïd a fait partie du fonds, j'ai oublié le mot.
L'égalité des chances.
Je trouve plus mes mots, oui, de l'égalité des chances, ouais. Mais voilà, bon, avec Hakim Camouche et également lauréat du trophée. Médine 95 et Aurélie Tourette, lauréate 2024 de Impact 95. Voilà, j'y suis arrivée. Saïd, Kelsey, peut-être quelques mots encore sur Kelsey, parce que tous les auditeurs ne vous ont pas forcément mémorisé la dernière fois.
KLC, groupe familial, oui. Fondé donc, par mes frères et moi-même donc, en 2015. On est un groupe spécialisé dans divers métiers dans le secteur du BTP, en commençant par le désamiantage, démolition, la construction, la revalorisation et la revitalisation de friches industrielles. Donc un groupe valdoisien, implanté dans le Val d'Oise, intervenant à l'échelle nationale, non seulement dans le secteur privé, avec des fonds d'investissement, des groupes hôteliers et d'autres, mais aussi dans le public, avec des collectivités, l'administration française, la région, plusieurs départements, et dans l'industriel avec des clients tels que Safran, Stellantis, Carrefour.
Une très belle entreprise.
Voilà, merci.
Et j'ai pu voir en préparant ce dossier que pour la quatrième année consécutive, vous avez vous figurez parmi les champions de la croissance 2025, un classement établi par les Échos et Statista. Donc voilà une belle reconnaissance.
Ouais. Merci.
Une croissance qui, on a le sentiment à vous entendre, qui se fait naturellement, Saïd.
La croissance, enfin, c'est le côté visible de l'iceberg.
Oui.
Naturellement, il y a beaucoup de travail derrière.
Bien sûr.
Et ça demande, beaucoup de sacrifices aussi, hein. Aujourd'hui, je vais pas faire trop de sujets là-dessus, mais ça demande surtout une vision à long terme. Mm-hmm. Donc, tout à l'heure, on en parlait un peu, mais aujourd'hui, il y a être engagé dans un secteur et être dans un secteur. Et nous, on a toujours voulu faire en sorte d'être engagé dans son
aller
secteur.
Aller de l'avant, oui.
Et être engagé, ça va au-delà de faire ce que tout le monde fait. C'est aussi de développer des sujets, en ce qui nous concerne notamment une application sur le réemploi, dans le secteur de la revalorisation, en trouvant des procédés alternatifs à l'enfouissement. Donc en essayant d'éviter l'enfouissement et transformer ces déchets en granulats pour pouvoir alimenter des centres de cimenterie ou des industriels et en faire de l'énergie là-dessus. Donc voilà, on a plusieurs aussi sujets, mais plus à long terme, dans lesquels on est en échange avec des universités. On accorde beaucoup d'attention et d'énergie à la recherche et développement.
Oui, j'allais vous dire, vous avez un département sûrement important de recherche et développement.
Exactement, recherche et développement, mais dans lequel ça prend quand même pas mal de temps. Tout à l'heure, on en parlait un peu avec le procédé de Laurie pour faire valider certains process ou certains produits. Il faut des retours d'expérience dans le temps aussi. Et aujourd'hui, on est en train de travailler là-dessus. Mm-hmm.
Ouais. Alors donc vous avez été grâce à votre directrice du développement, vous avez postulé au trophée donc Made in 95. Est-ce que vous vous attendiez à être lauréat Saïd?
Il y avait de très belles entreprises aussi. Hein. Oui. Aujourd'hui, nous, vraiment, on était plus allé dans l'esprit de contribuer, de participer. Donc, un mouvement, un salon qui est très cher à notre département. Et par la suite, naturellement, bon, on a tous des convictions et des chances de l'avoir. Et on avait de très très belles entreprises, donc on a été élus parmi eux. Et effectivement, il y a quand même une part de surprise dans tout ça, parce qu'on s'y attend pas forcément.
Donc vous, vos technologies, un peu, vous êtes dans le même process que Laurie, mais à un niveau beaucoup plus industriel, bien sûr. Donc quand vous nous parliez de cette transformation en granulat, c'est un procédé que vous avez mis vous-même au point, ou ça existait et vous l'avez adapté?
Donc aujourd'hui, c'est un procédé qui existe depuis pas mal de temps. Mais aujourd'hui, bon, pour vous situer, il n'y a aucun, c'est du CSR, combustible solide de recyclage, il n'y a aucun centre de combustible solide de recyclage dans le Val d'Oise.
D'accord.
Donc on va être le premier à le créer. Mmh. Et dans la région Île-de-France, il n'y en a qu'un autre, et il est dans l'Essonne.
D'accord.
Donc voilà, c'est des procédés quand même dans lequel l'investissement quand même est vraiment à long terme. Donc nous, la chance d'avoir plusieurs autres activités dans le groupe, et tout ça nous permet aujourd'hui de pouvoir se positionner dans ce genre d'investissement.
J'imagine un très gros investissement.
Effectivement, ouais. C'est un très gros investissement, et c'est un investissement aujourd'hui qui va au-delà du côté économique, parce que aujourd'hui derrière tout ça, il y a le côté aussi écologique, dans un premier temps, mais il y a le côté aussi social et sociétal. Via ce projet, premièrement, on va montrer que notre département, on a un centre de CSR et on est pionnier, et peut-être montrer l'exemple à d'autres entreprises dans d'autres départements. Mais surtout aussi, derrière, il y a de la création de l'emploi. On a plus de 100 postes qui sont donc à promouvoir, parce que c'est un procédé qui demande énormément de masse salariale.
De main d'œuvre, oui.
Voilà. Et on est en train d'avancer pour pouvoir implanter le futur centre, je pense, d'ici à peu près 18 mois.
D'accord.
Donc voilà, donc l'idée c'est de récupérer tous les déchets.
On peut savoir à quel endroit ?
Donc sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône.
D'accord.
Voilà, donc sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône. Et aujourd'hui, l'idée c'est de récupérer en fait tous les déchets qui sont destinés à être enfouis. Parce qu'on a toujours une part à peu près de 30% dans le recyclage qu'on n'arrive pas à recycler. Donc c'est ce qu'on appelle les indésirables, les DIB, déchets.
Oui.
Voilà. Et l'idée c'est de récupérer tout ça à travers un procédé mécanique et industriel, de le retraiter, le transformer en granulat et s'en servir comme alternatif aux énergies fossiles telles que le gaz et l'électricité dans des grosses installations, chez les cimentiers, chez les réseaux urbains de chaleur et différents industriels.
Vous êtes en lien avec l'ADEME pour des projets comme celui-là?
On est en lien avec l'ADEME et plusieurs autres des intervenants comme la BPI.
Oui.
Donc on a aussi d'autres mouvements au niveau du fonds vert et tout ça. Donc on est en lien pour d'éventuelles subventions.
Alors j'ai retrouvé le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est le fonds de mécénat territorial pour l'égalité des chances auquel
vous êtes
partenaire et mécène.
Exactement. Ouais.
Donc complètement dans votre ADN finalement.
C'est ça, c'est que avec le temps, je suis encore jeune, j'ai encore de nombreuses...
Oui, vous êtes tout jeune.
Mais on se rend compte qu'en fait, le but d'un entrepreneur, c'est pas seulement le côté économique, c'est aussi essayer de contribuer à la vie sociale et sociétale de son secteur et surtout de son territoire. Donc nous, on intervient pour essayer de soutenir toute action, tout mouvement visant à faire de ce territoire un territoire meilleur. Et donc le fonds territorial sur l'égalité des chances en font partie.
Ouais.
Donc j'étais venu en compagnie de Hakim, notamment, qui n'a fait que motiver notre choix pour soutenir ce mouvement.
Oui, c'est un incontournable de l'égalité des chances, Hakim, c'est clair. Alors, quand on réalise comme ça, parce que ce projet-là qui va sortir de terre dans 18 mois, c'est ça?
C'est ça, à peu près.
Qui va être... active dans 18 mois, on a envie de passer tout de suite à autre chose. Mmh. Est-ce qu'il y a encore des possibilités d'innover dans le secteur du traitement de déchets ?
Oui, 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 il y a plusieurs possibilités. Bah, j'en parlais un peu, on est en partenariat étroit avec certaines universités pour oui. trouver des nouvelles formules, mais bon, qui prennent un peu plus de temps parce qu'ils ne sont pas encore actés par l'administration. Mmh. Donc on a aussi d'autres pistes donc pour pouvoir trouver des solutions alternatives en plus du CSR.
Très bien. Saïd, merci infiniment pour cette démonstration de votre activité et puis ce travail précieux que vous accomplissez. Merci à vous de tout ce que vous accomplissez. Merci infiniment.
Merci.
Voilà, c'est l'heure d'une nouvelle pause. Un peu de musique et on se retrouve tout de suite après avec Aurélie Tourette.
J'ai passé mon temps à vouloir renaître, à chercher comment, pourquoi et peut-être ici maintenant. J'en fais l'aveu. Que mes lèvres s'en tiennent à la vérité. J'embrasse mes faiblesses, ma joie, mes péchés ici, maintenant. J'en fais le vœu.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
C'est toujours l'économie en direct avec ce matin la mise en lumière de ces lauréats du Salon Effervescence choisis parmi un large panel d'entreprises venues présenter leurs projets devant un jury averti. Parmi ces lauréats et leur accompagnateur Florent Bosseur, chargé de mission au CEVO, lauréate du Trophée Impact 95 Laurie Demire, pour le trophée Made in 95, Saïd Kilik et Aurélie Tourette, fondatrice, alors Saïd Kilik, fondateur et dirigeante de KLC, Laurie, fondatrice de Laurig, et Aurélie Tourette, fondatrice de EcoActitude, lauréate 2024 du trophée Impact 95, coup de cœur. Voilà, je me suis pas trompée, hein, Aurélie, pardon. Alors, à présent, focus sur vous, Aurélie. Rappelez-nous comment est née justement EcoActitude.
En fait, EcoActitude, donc moi, c'était aussi au moment du Covid, en fait. Alors déjà, je faisais mes petits produits moi-même.
Vous étiez une fervente du do-it yourself,
voilà, DIY. Effectivement, donc cosmétiques, produits d'entretien. Enfin, j'avais le temps. Du coup, je m'y suis mis vraiment à fond, même si ça fait moi 8 ans que je fais mes produits.
D'accord.
Et voilà, moi, j'étais dans un tout autre domaine avant. J'étais dans la logistique d'œuvres d'art, donc ça n'a rien à voir. Et je voulais vraiment pouvoir sensibiliser plus, avoir plus d'impact, notamment pour la consommation durable. Et je me suis formée à la cosmétique naturelle. Et je me suis lancée dans cette aventure. Donc j'anime aujourd'hui des ateliers DIY. Donc de cosmétiques, produits ménagers ou d'upcycling créatif. Et c'est dans le but de sensibiliser donc à la consommation durable et à la réduction des déchets également. C'est pour montrer en fait à tous que fabriquer ses produits soi-même, c'est une solution qui peut être simple, qui peut être efficace aussi, et surtout économique et écologique. Et puis saine aussi pour la santé.
Complètement. Mmh. Je suis en train de penser que là, dans le studio, on a vraiment trois. Vous êtes tous les trois dans le même, dans la même mouvance, mais à des niveaux différents. Et ça montre que vraiment, ça peut toucher tous les publics. Hein.
Exactement. Oui, ouais. on est tous dans la réduction des déchets, mais à certains.
Très bien. Ouais. Mmh. Oui, donc vous vous adressez peut-être plus aux particuliers.
Exactement. Voilà. Alors j'interviens beaucoup auprès des collectivités.
Oui.
Je travaille avec une dizaine de villes maintenant du Val d'Oise, donc je suis assez contente.
Et donc vous signez des conventions, c'est ça, avec ces, comment ça, alors, ça fonctionne?
Alors pas forcément. Oui, soit c'est du ponctuel, soit c'est du récurrent. Soit j'interviens auprès des centres d'action sociaux, j'interviens dans les médiathèques, dans des événements. Par exemple, je suis intervenue sur Inspiration durable à Saint-Gratien. Donc c'était un événement vraiment lié à la consommation durable. Et là, je vais en avoir beaucoup là sur le mois de juillet avec Hermont, avec Franconville, Beauchamp, beaucoup d'événements pour sensibiliser en fait les gens, en fait le public,
à cette philosophie en fait.
À cette philosophie
de vie,
hein. et je suis contente parce que ça fonctionne, parce que des fois les gens me suivent après notamment sur les réseaux sociaux et me disent oui, vous savez que depuis l'année dernière qu'on s'est vu, je fabrique mon dentifrice moi-même
c'est incroyable.
Il y a quelques personnes quand même qui continuent derrière, qui continue, parce qu'après je leur laisse la recette, donc ils peuvent continuer à la maison et du coup j'interviens aussi avec les entreprises. Alors, peu dans le Val-d'Oise, j'aimerais développer justement dans le Val-d'Oise, parce que je fais beaucoup sur Paris.
Oui.
Mais pour les team building ou les animations RSE, je propose aux salariés de fabriquer leurs produits.
C'est-à-dire, vous passez une demi-journée ou une journée entière à.
Ça dépend, soit c'est une heure en format team building avec un petit groupe, soit effectivement, beaucoup aussi sur la pause du midi, j'ai un petit stand où les salariés viennent, fabriquent leurs produits, repartent avec. Et je peux faire aussi. Pour la fin d'année, j'ai des demandes pour les arbres de Noël, par exemple, des petites choses comme ça.
Qu'est-ce que vous fabriquez pour les arbres de Noël?
Et généralement, on fait. Ça dépend en fait. Soit c'est avec les familles, et là, on peut faire des petits cosmétiques. On peut faire soit des bougies aussi, des petites bougies. Alors là, j'utilise les déchets, ce qui aurait pu être considéré comme un déchet, notamment des petits pots de yaourt en verre.
Ouais.
Là, on fait des bougies dans ces petits pots de yaourt pour aussi dire aux gens, voyez, ça peut être revaloriser et on peut en faire quelque chose. Pareil, on peut faire des petits terrariums en fait dans des bocaux de compotes, de légumes, tout est bon.
Mais d'ailleurs, vous devez avoir un regard averti maintenant. Dès que vous voyez un contenant, vous devez vous dire
ça me donne des idées, effectivement. Ouais. C'est comment je vais pouvoir le détourner, et puis surtout, est-ce qu'il y en a assez, est-ce que je peux le récupérer facilement pour pouvoir en faire des ateliers à plus grande échelle, effectivement.
Mais ce qui est sûr, c'est que vous aussi, vous avez une croissance assez rapide. Hein, EcoActitude maintenant est répertoriée, est de plus en plus connue.
Tout à fait, oui, oui. Déjà, je suis très contente parce que déjà entre la première année, là moi ça fait que 2 ans là que j'ai commencé. Entre la première année et la deuxième année, la croissance a été doublée. Enfin voilà, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Là, du coup cette année, je me suis plus développée auprès des entreprises, comme je disais. Je fais des partenariats aussi beaucoup. Notamment là en début d'année, j'ai fait un partenariat avec l'association Les Ailes de l'Oiseau Bleu à Boissy-l'Aillerie. C'est dans le but de proposer des ateliers solidaires aux entreprises. C'est-à-dire que là, on va faire un atelier, par exemple, cosmétique, où au lieu que les employés repartent avec leurs cosmétiques, là, je les récupère et je les remets à l'association pour qu'ils soient distribués aux bénéficiaires, donc qui sont des femmes en difficulté.
D'accord.
Ça, ouais, ça rajoutait une touche de solidarité au côté environnemental en fait que j'avais déjà.
C'est ça, vous rejoignez l'idéal de voilà, Saïd également.
Ça. J'essaie de trouver des nouveaux formats voilà pour développer.
Très bien. Je crois que vous avez quand même toujours besoin de visibilité, Aurélie.
Exactement.
Donc, dans le Val d'Oise, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. L'Île-de-France, ça marche plutôt bien. Enfin, Paris, en tout cas, ça marche bien.
Paris, c'est sûr.
Bah,
y a, oui, beaucoup d'entreprises, effectivement.
Et vous l'expliquez comment?
Bah, je sais
que
pas.
Ça marche mieux à Paris que dans le Val d'Oise. C'est surprenant.
Je sais pas. Peut-être que, oui, je sais pas. Après, je me suis alliée aussi à des agences événementielles qui travaillent beaucoup sur Paris aussi. Donc, il y a beaucoup de ça aussi. Mais je sais pas. Oui, c'est surprenant. Peut-être que, finalement, je sais pas si c'est un manque de visibilité dans le Val d'Oise, parce que pourtant, je sais que j'ai de la visibilité par rapport aux,
vous en avez,
aux collectivités,
oui, oui.
Surtout.
Moi, je vous suis sur les réseaux sociaux et vous en avez.
Mais voilà, je sais pas, effectivement, savais, peut-être que
on lance un appel.
Mais voilà, je lance un appel s'il y a des entreprises qui veulent une animation, pour les aider à sensibiliser leurs salariés, une animation ludique, surtout. Et ben, voilà, je suis là.
Alors, vous avez, parlons de ce trophée pour lequel vous avez été primé l'année dernière. Donc, c'était un trophée coup de cœur.
Voilà,
coup de cœur. C'est ce que nous disait Florent, un trophée qui n'existait pas au départ, mais que vous avez eu envie de mettre en avant.
C'est plus une mention qu'un trophée. Ouais, il n'y a pas l'objet trophée derrière, malheureusement. Ouais. Mais vraiment, il y avait la volonté de le mettre en valeur.
C'est la deuxième place, en fait, voilà.
C'est ça, oui.
Mais déjà, ça m'a beaucoup apporté à moi, en fait. Parce que du coup, après, j'ai eu un article, par exemple, l'agglomération du Val-Parisis, dans laquelle je suis, m'a fait un article. Enfin, j'ai eu de la visibilité, et voilà. Non, c'était sympa que ce soit rajouté, ce coup de cœur.
Vous, aujourd'hui, vous êtes aussi... vous avez représenté au Salon Effervescence l'association Event Circle, donc, qui a été créée par Alice Sadrin et Christophe Saint-Denis. Je leur ai dit, d'ailleurs, qu'il faut qu'ils viennent m'en parler.
Ah oui, je pense qu'ils étaient déjà...
Parlez-nous de cette association.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est une association qui a été créée en septembre dernier. Et c'est un réseau de professionnels de l'événementiel. Donc, on a vraiment... sortes de métiers de l'événementiel. Il y a des traiteurs, il y a des lieux, comme Christophe qui représente Dreamaway. On a d'autres lieux, il y a des chocolatiers, des gens qui font de l'animation, comme moi par exemple. Et donc on se réunit une fois par mois et on essaie d'avancer ensemble en fait, de créer aussi des projets communs. Et le but, ça serait de faire une offre commune en fait avec un catalogue où une entreprise ou une collectivité va pouvoir trouver des prestataires sans chercher trop en fait il y aura plusieurs prestataires et des prestataires voilà qui sont de qualité.
Donc vous travaillez là-dessus pour en ce moment.
Voilà, et c'est ça. Voilà, du coup, moi je m'occupe de la communication, du coup maintenant de l'association. Mais voilà, on est une vingtaine de membres aujourd'hui.
Ah oui, c'est pas mal.
C'est pas mal, effectivement. Et on a toujours des invités. Donc, du coup, s'il y en a qui travaillent dans l'événementiel, qui nous écoutent, n'hésitez pas.
Vous êtes preneurs.
Event Circle est présent sur LinkedIn. Donc, on peut.
Très bien.
Mais j'en parlais tout à l'heure aussi. Event Circle est partenaire organisateur du Salon Effervescence également.
Oui, parce que
c'est le lien
avec Christophe
Saint-Denis et Alice.
Ouais. Voilà, exactement.
Donc, ça fait un autre. un autre partenaire important.
Il y en a une trentaine.
Vous, Aurélie Tourette, comment voyez-vous l'évolution justement du do it yourself dans le contexte actuel, hein?
Ah bah là, c'est le do it yourself, c'est vraiment en croissance en fait. Ouais. Hein. Bah depuis vraiment le Covid, c'est vraiment tous les ans en croissance. Voilà, on voit par exemple, il y a une grosse boutique dédiée au do it yourself qui s'appelle Aromazone. C'est devenu la deuxième enseigne préférée des Français.
D'accord.
Derrière Decathlon. Donc ah déjà, oui. On voit qu'il y a un engouement pour ça. Ouais. Voilà, les gens, aujourd'hui, on entend tous les jours des problèmes liés de santé, en fait, liés à tout ce qu'on utilise au quotidien. Et voilà, les gens veulent revenir au naturel pour eux-mêmes, pour leurs enfants, et cherchent d'autres moyens.
D'autres alternatives.
Voilà, d'autres alternatives. En plus de ça, voilà, il y a le côté économique aussi, parce que ça coûte vraiment très peu cher. Moi, je dis toujours, je prends l'exemple de la lessive, par exemple, à fabriquer, ça nous coûte 70 centimes le litre, en fait.
Ouais.
Et 5 minutes de temps, hein. c'est pas compliqué. Donc, c'est toujours plus économique. Et c'est vrai que là, on est dans un contexte où c'est... voilà, on essaie de faire des économies quand même.
Sur beaucoup de produits,
sur beaucoup,
bien sûr.
Et ouais. Voilà. Et du
puis, il y a surtout vraiment... le côté pratique. C'est-à-dire que si on n'en a plus, bah, on peut le fabriquer soi-même.
Et c'est exactement ça. Ouais. Moi, ça me prend moins de temps de refaire ma lessive que d'aller en chercher au magasin, clairement. Oui, il y a plein de côtés de d'avantages en fait, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. On se dit souvent oh non, ça va prendre du temps, il faut beaucoup d'ingrédients, c'est compliqué, c'est pas efficace, alors que si vraiment,
ouais, c'est vraiment
moi j'utiliserais pas depuis 8 ans les produits si c'était pas efficace.
Vous avez pu faire comme ça un calcul des économies que vous avez réalisées ou jamais? Vous l'avez pas fait?
Non, je l'ai pas fait. Après, je l'ai fait pour voilà, j'ai calculé effectivement combien coûte chaque produit à réaliser soi-même, mais c'est vrai que j'ai pas fait le calcul des économies.
Vous devriez le faire parce que, oui. Quand vous achetez un bidon de lessive,
oui,
par rapport
le
à ce
nombre,
que vous faites,
toute l'année sur une année, c'est
ça serait
considérable.
Certainement parlant. Ouais.
Oui, oui, je vais le faire. Bonne idée. Merci. <Ouais.
rire> Et donc, quel conseil vous donneriez à celles et ceux qui auraient envie de se lancer dans cette activité similaire à la vôtre?
Eh bien, de ne pas hésiter, de foncer, de se faire accompagner aussi, parce que c'est vrai que sur Internet, on trouve toutes sortes de tutos et c'est pas forcément l'idéal. Des fois, il y a des erreurs, il y a des choses qui peuvent être dangereuses même. Donc voilà, se faire accompagner. Et puis une fois qu'on a les bonnes recettes, c'est de se lancer et de découvrir, surtout de voir que ça prend pas longtemps et que c'est tellement plus simple.
Et qu'on peut innover
soi-même. Oui. Tout à fait.
Très bien. Merci beaucoup, Aurélie Tourette, pour ce partage. Et puis, bravo pour cette belle énergie. Hein. Ne changez rien.
Merci beaucoup.
Voilà, on arrive presque à la fin de l'émission. Un petit mot avant de nous séparer. Laurie, je vous redonne la parole avant de nous séparer.
Eh bien, j'étais ravie en tout cas d'être à IDFM. J'ai repensé à quelque chose. Je ne sais pas si j'ai abordé le sujet du fait que mon matériau est 100% naturel. Je me suis dit, potentiellement, je l'ai oublié. Donc, je pense que c'est un point quand même important.
Moi, je pense qu'on l'a compris, parce que quand vous dites que vous utilisez les cheveux, les poils d'animaux, donc
c'est vrai, mais en tout cas, il n'y a pas de liant qui soit issu de la pétrochimie. Et c'était totalement le projet. C'est pour ça aussi que ça a pris pas mal de temps à se développer. C'est qu'il fallait trouver la bonne technique pour pouvoir réaliser un matériau 100% naturel et qui soit donc circulaire. Ça, c'était aussi très important. Donc, l'idée, c'est que ça puisse retourner même à la terre. Donc, soit être valorisé en reconcevant après utilisation du matériau ou entre guillemets en fin de vie d'utilisation de la première application, disons. Voilà, on peut reconcevoir un matériau kamikami ou d'autres choses à partir de cette matière, mais également ces matières kératiniques sont très riches en azote. Donc c'est pour ça que c'est conçu de manière naturelle pour pas dégrader aussi la matière première dans l'objectif que ça puisse retourner à la terre et en faire un très bon engrais. Voilà, donc
très
c'était
bien.
Pour
donc
ça que c'est intéressant avec le projet du centre
horticole. Le circuit complet en fait.
Ouais, ouais, c'est ça.
Très bien.
Et également j'avais réalisé des projets aussi de commandes personnalisées parce que c'est un finalement une matière qui peut être aussi très, très perçue comme symbolique au vu de la matière utilisée, qu'il s'agit par exemple de cheveux ou de poils de notre animal de compagnie. Et j'avais aussi réalisé donc un projet comme ça pour le prince Albert de Monaco lors de sa visite à en fait il est venu au sein de mon atelier sans le vouloir, mais formidable. C'était ici que la fresque avait été réalisée
en janvier là, quand il est venu pour
donc, j'ai la chance de la chance de le rencontrer, d'échanger avec lui et de lui du coup lui offrir un tableau du chien de la princesse Charlène de Monaco. D'accord. Le chien Kita. Et donc c'était aussi voilà une façon de montrer une autre partie du projet, notre aspect où j'ai eu pas mal de demandes aussi, qui était de réaliser des choses bien plus symboliques et effectivement c'est quelque chose de très important aussi de pouvoir mixer aussi entre les poils ou voilà les fibres de notre animal et ceux du maître, peu importe, il y a plein de choses possibles,
c'est ça, et ça c'est très vaste. Le champ est très vaste,
c'était quelque chose aussi qui était très très sympa à faire quoi, donc voilà.
Ben merci beaucoup, merci. On retient tout ça, Laurie. Et puis, je me répète, mais on vous souhaite beaucoup de succès dans la suite de votre projet.
Merci beaucoup.
Saïd, Kilik, un mot de conclusion avant de nous quitter.
Un mot, encore merci, Jacqueline, pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici et de partager des moments avec vous et votre équipe. Moi, je pense que c'est un peu un point en commun avec Aurélie et Laurie. C'est qui que ce soit, dépassez vos limites.
Quand
quoi. Aujourd'hui, voilà, vraiment, ne soyez pas, on va dire, encadré ou quadrillé par une façon de faire ou quoi. Essayez de perturber, de pousser les murs et trouver des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, qui ne tente à rien n'a rien. Ouais. Et au final, ça marchera pas, mais bon, on aurait quand même
essayé.
Et c'est le plus important.
On vous souhaite quand même de réussir.
Merci beaucoup, à tous. Merci.
Ce serait mieux. Merci Saïd. Aurélie, un mot.
Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation et j'ai été ravie de partager ce moment.
Moi aussi, parce que j'ai trouvé que le fil conducteur était vraiment tout trouvé.
Effectivement, c'est super de pouvoir découvrir d'autres sujets dans la réduction de déchets. Et n'hésitez pas à me suivre du coup sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur EcoActitude. Et j'y partage mon agenda notamment. Et du coup, j'invite tout le monde à venir
assister à vos ateliers
pour se rendre compte en fait de la facilité en fait du do it yourself.
Très bien, merci beaucoup Aurélie. Florent, le mot de la fin est pour vous.
Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis content en effet qu'on avait ces représentants du trophée Effervescence autour de nous, parce que c'est aussi le marqueur d'une volonté des organisateurs de mettre un point plus important sur la RSE. Quel que soit le trophée, uniquement sur le trophée RSE, on a intégré dans le questionnaire justement de candidature toute une partie pour comprendre la politique RSE des entreprises, et c'est vraiment un point sur lequel on est très sensible quand on fait la sélection. Le mot de la fin, restez à l'écoute des différents réseaux sur Effervescence. Je pense que la date et le lieu devraient être annoncés dans pas trop longtemps. Et moi, normalement, à la rentrée, je rempile pour une nouvelle version des trophées Effervescence.
Écoutez, on va l'attendre avec impatience. C'est vrai que c'est un moment qu'on attend et on est presque déçu quand la journée se termine parce que c'est tellement riche. Merci beaucoup Florent Boisseur d'être venu jusqu'à nous. Voilà, l'émission est vraiment terminée. Merci à vous tous pour ces échanges qui prouvent une fois encore que chaque petit geste compte pour un avenir plus durable. Merci Francky pour la technique. Merci Nicolas de nous avoir assistés. Merci à vous tous d'avoir été à notre écoute pour ce spécial lauréat Effervescence. Cette émission vous a plu, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez-la comme bon vous semble en podcast sur le portail de la radio 98.fr. Belle journée, belle semaine et à vendredi pour la rétrospective cette fois du salon CAPEB qui aura lieu la veille le 5 juin à Saint-Ouen-l'Aumône et qui DFM Radio aura l'honneur de couvrir. Il est d'ailleurs temps de s'inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. à vendredi.